Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient et l'émission Dourou Bounoujoum Ma'a Olfa. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir un musicien qui fait voyager les sons et les émotions à travers le monde. Récompensé à de nombreuses rubriques autour ou auteur de concerts inoubliables, notre invité Ibrahim Maalouf est avec nous sur les ondes de Radio Orient. Allô Sal.
Bonjour.
Bonjour. Alors, avant de commencer, on peut savoir comment est née ta passion pour la trompette et la musique?
Moi, je suis né dans une famille de musiciens. Mon père est trompettiste, ma mère est pianiste. Et la musique était partout à la maison. Mm-hmm. C'est vraiment, on a grandi dans la musique. Ça a été mon refuge depuis que j'étais tout petit. C'est dans la musique que je me suis réfugié petit et que j'ai appris à m'exprimer finalement. Et puis la trompette, c'est mon père qui m'a donné les cours. Mm-hmm. Toute mon enfance, j'ai eu des cours avec mon père, Nassim Maalouf, qui est un très grand trompettiste et qui a révolutionné le monde de la musique et révolutionné à la fois le monde de la musique classique européenne et en même temps le monde de la musique classique arabe en inventant un instrument qui permet de jouer les quarts de ton. Donc il m'a enseigné ça depuis que j'étais tout petit. Mm-hmm. C'est vraiment ça.
Parlons des albums. First Noël, un album qui est sorti en 2021. Vous faites la promotion chaque année. Bientôt, c'est Noël. Il est dédié à ton fils ainsi qu'à ta grand-mère qui a vécu 99 Noël. Ces deux générations sont très différentes. Pourquoi cette dédicace ?
C'est très important parce que ma grand-mère a été le pilier de notre famille pendant un siècle. Mm-hmm. Elle a porté sur ses épaules toute une partie de notre famille avec des valeurs à la fois culturelles, littéraires, humaines. C'est la mère de ma mère, la mère de mon oncle Amin Maalouf, le grand écrivain. C'est vraiment la matriarche qui a construit un peu notre culture familiale francophone aussi. Donc c'est une femme qui a eu énormément de place, qui a une grande importance dans notre famille, et personne dans notre famille n'a vécu sans elle puisqu'elle a vécu un siècle. Donc on a toutes les personnes de notre famille ont vécu et sont nées après sa naissance, et donc ça a été très difficile le jour où elle nous a quittés, elle avait cette place importante, et j'aurais aimé qu'elle vive son 100e Noël avec nous. Et malheureusement, elle nous a quittés juste avant. Donc, on n'a pas eu la chance de vivre le 100e Noël avec elle.
Mmh, donc, c'est une sorte d'hommage. Ou bien, on dit aussi qu'un siècle les sépare, mais la magie de Noël est la même. Peux-tu nous expliquer peut-être cette phrase que tu l'as dit bientôt, c'est 100 ans, mais elle n'a pas malheureusement vécu sans Noël avec vous.
Oui, c'est ça. J'aurais aimé qu'elle vive le 100e Noël avec nous. Ça aurait été symbolique, ça aurait été beau qu'elle soit à nos côtés sur ce Noël-là. Nous, on est très attachés aux réunions familiales aussi. Et souvent, Noël, c'est d'ailleurs l'occasion de retrouver toute la famille autour d'elle. Et c'est quelque chose de rassurant. Vous savez, dans notre culture arabe, mm-hmm. la place des vieux est très importante, en fait. C'est nos piliers.
C'est vrai.
C'est nos références. Et même s'ils ont fait des erreurs, ça reste souvent quand même nos références. Et dans la culture occidentale, ou en France, ou en Europe, les vieux sont mis de côté. C'est quelque chose qui m'a toujours choqué.
Oui.
Depuis que je suis petit, je ne comprends pas pourquoi, justement, lorsque l'être humain a acquis un certain nombre de connaissances, a un bagage énorme de culture, d'expérience, parfois même aussi de sagesse, pas tous,
oui.
mais aussi beaucoup de sagesse, c'est à ce moment-là qu'on est censé les respecter encore plus. Dans beaucoup de pays du monde, en Asie, en Afrique, dans le Moyen-Orient, dans nos cultures arabes, l'âge est vraiment respecté. En Europe ou en Occident, l'âge est mis de côté. L'âge est vraiment considéré comme étant un défaut. C'est quelque chose que je trouve à la fois humiliant, injuste vis-à-vis de nos vieux, et je trouve ça terrible par rapport même aux valeurs qu'on est censé communiquer. et transmettre aux générations d'après. Donc moi j'ai voilà, j'ai beaucoup 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 de respect pour nos anciens et ma grand-mère était vraiment la patronne des anciens.
C'est partout dans les familles arabes, c'est les grands sont les piliers de la famille, c'est eux qui réunissent la famille et restent solidaires après. Donc de génération à génération, c'est bien de garder cette culture, on va dire.
Oui, voilà, c'est important pour moi. Et puis, voilà, donc cet album de Noël, c'était à la fois le premier Noël de mon fils, Naël, et le Noël que n'allait pas vivre ma grand-mère pour la première fois en un siècle.
Bientôt Noël, donc c'est cet album, pourquoi avoir choisi une approche instrumentale pour la plupart des morceaux et aussi tu évoques un retour à la mélodie au centre de l'écoute. Qu'est-ce que cela signifie pour toi?
Cet album qui s'appelle First Noël, c'est comme je disais, c'est le premier Noël de mon fils Naël. Et donc j'avais envie de lui offrir un album de Noël. Moi, je suis pas chanteur, je suis musicien. Et donc ma vision de la musique, elle est avant tout instrumentale et émotionnelle. Elle est pas dans l'intellect des paroles. Et par exemple, quand il y a 2-3 ans, on m'a invité à jouer pour le 14 juillet l'hymne national devant au Champ de Mars, devant la Tour Eiffel, devant 6 millions de personnes. J'ai fait quelque chose que personne n'avait fait avant, c'est-à-dire que j'ai joué l'hymne national sans les paroles. Après on a mis les paroles évidemment parce qu'on n'a pas le droit de ne pas mettre les paroles, mais j'ai fait une interprétation sans les paroles et je me rends compte et on s'est rendu compte que lorsqu'on se concentre sur la musique, parfois plus que sur les paroles, il y a quelque chose de magique qui se passe. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là, ce 14 juillet-là, lorsque j'ai joué l'hymne national français. Il s'est passé quelque chose, les gens ont pris conscience de la beauté de cet hymne, alors que chaque année, il y avait toujours des débats sur les paroles qui sont belliqueuses, etc. Là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que Noël, il y a quelque chose de magique dans Noël. C'est pour moi, la musique, les compositions, les chansons, les musiques de Noël ont quelque chose de magique. Les paroles, souvent, trahissent cette magie en apportant une dimension religieuse ou en apportant une dimension enfantine ou en apportant une dimension publicitaire, etc.
Oui.
En fait, la musique, la mélodie en elle-même, les mélodies, les harmonies sont absolument magnifiques. Et donc, j'ai eu, voilà, en tant qu'instrumentiste, j'ai eu envie de faire un album où vraiment c'était la musique qui apportait la magie et on mettait de côté complètement les paroles.
C'est ça. Dans un monde souvent fragmenté, la musique de Noël, penses-tu qu'elle a toujours un rôle particulier ou peut-elle rassembler, apaiser, inspirer aussi?
Mais justement, les moments magiques qu'il peut y avoir dans toutes les cultures, dans toutes les religions, sont des moments, pour moi, de réflexion spirituelle très importante, parce que c'est des moments où finalement on se réunit tous. Noël, moi j'ai des amis d'autres religions, qui sont des gens qui ne sont pas de religion chrétienne, qui adorent Noël, parce que c'est un moment magique, parce que c'est beau, parce que les décorations, parce que les musiques, parce que les cadeaux, parce que la spiritualité qu'il y a derrière, qui se cache derrière, etc. Et on met complètement de côté les livres religieux, les textes. On met de côté tout ce qui peut parfois être utilisé à mauvais escient dans les dogmes dans les, et dans les religions. Et c'est des moments où tout le monde finalement célèbre Noël, mais pas pour les mêmes raisons. Et c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ça permet simplement de vivre un moment féerique, magique, de poésie avec les enfants. Et combien de fois j'ai rencontré dans ma vie des gens qui me disent ah ben moi je suis pas chrétien, dans notre famille on fête pas Noël, mais qu'est-ce que j'adore la période de Noël parce que
c'est magique.
C'est magique. Etc.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Et donc c'est pour ça en fait qu'un album comme celui-ci, comme First Noël, et je trouve qu'il a aussi une utilité, c'est qu'il rassemble au-delà des livres, au-delà des textes religieux, au-delà de la dimension religieuse, il rassemble autour d'une, ben voilà, d'une forme de spiritualité collective que je trouve belle et nécessaire aujourd'hui, comme vous le dites.
Mmh. L'album Trumpets marque une étape importante dans ta discographie. Non seulement il rend hommage à ton père, mais il est aussi un pont entre générations, une célébration des valeurs de transmission. Brahim Maalouf, peux-tu nous raconter comment est née l'idée de cet album ?
Trompette de Michel-Ange, c'est une histoire de famille.
Mmh.
La couverture de l'album, c'est la fanfare de mon village au Liban. Et la photo date de 1924. Elle a été publiée dans le journal du village en 1925, c'est-à-dire il y a exactement un siècle. Et on voit mon grand-père sur cette photo, debout dans la fanfare. Et à l'époque, ces fanfares, c'était des fanfares très inspirées par le mandat français. C'est-à-dire que c'était des fanfares à la française. La France avait importé des cuivres à la française. Et les gens avaient appris à jouer sur ces instruments sans vraiment qu'on leur apprenne bien. Mm-hmm. Mais ils savaient en jouer un peu. Et mon père a grandi en écoutant ces fanfares jouer faux. Pourquoi faux ? Parce que peut-être qu'il ne leur avait pas bien appris, ça c'est une chose,
mm-hmm.
mais surtout, les fanfares voulaient jouer la musique arabe. Elles voulaient jouer les makamat, elles voulaient interpréter des chansons avec du tarab, avec toute cette culture de la musique arabe. Sauf que les instruments ne pouvaient pas jouer les makam arabes, ils ne pouvaient pas jouer les quarts de ton qui font justement la spécificité de la musique arabe. Et les quarts de ton sur une trompette ou sur une clarinette, c'est absolument pas possible en fait.
Mm-hmm.
Donc, quand mon père entendait ses fanfares jouer, il les trouvait fausses. Et puis, un jour, il s'est mis à jouer de la trompette. Il a eu envie de jouer de la trompette. Il a voyagé à Paris pour étudier avec Maurice André, qui était le grand, grand trompettiste, le plus grand trompettiste classique à l'époque, au Conservatoire de Paris. Et immédiatement, il a compris qu'en fait, il manquait quelque chose à la trompette. Et lorsqu'il a rajouté ce quatrième piston pour jouer les quarts de ton, eh ben, c'était une révolution, vraiment. Et ça lui a permis de pouvoir relier la musique arabe et les cuivres européen.
Mm-hmm.
Et Trumpets of Michel-Ange, cet album, c'est vraiment une fanfare. C'est-à-dire, j'ai recréé une fanfare à la manière des fanfares de notre village au Liban, mais cette fois-ci avec des trompettes qui jouent les quarts de ton. Et donc, on peut maintenant jouer exactement ce qu'aurait voulu jouer il y a un siècle ou un siècle et demi nos aïeux dans les villages libanais.
Mmh. Comment as-tu équilibré dans cet album l'expérimentation, par exemple avec des sons plus modernes ou mondiaux, et l'accessibilité pour un public large ?
Moi, lorsque j'ai commencé à faire des albums il y a 20 ans, toute mon énergie, je l'ai mise à profit dans ça, c'est-à-dire dans l'idée qu'il fallait à la fois que je fasse une musique inspirée de tout ce que j'ai appris, de la musique classique, de la musique baroque, de la musique arabe, de tout ce que mon père m'a enseigné, de toutes les valeurs qu'on m'a enseignées à travers la musique depuis toujours, de mon amour de toutes les musiques du monde, etc. Mais avec quelque chose qui ressemble à mon époque. Parce que au final, les artistes, en général, nous, on est des témoins de l'époque dans laquelle nous vivons. Et notre responsabilité, enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire moi, toujours, dans mes albums. Notre responsabilité, c'est de créer une empreinte de l'époque dans laquelle on vit. Lorsqu'on écoute une musique de la Renaissance, tout de suite, on reconnaît l'époque de la Renaissance. Quand on écoute Om Kulthum, tout de suite, on se plonge dans les années 60, dans les années 70, en Égypte. Quand on écoute Off the Wall de Michael Jackson, on sait qu'on est dans la fin des années 70, début des années 80. Et en fait, chaque musique a une époque et elle correspond à une époque, et c'est normal en fait. La musique évolue, mais elle ressemble à son époque, et c'est comme dans tous les arts, comme la peinture, comme l'architecture, comme tout. Et donc ma responsabilité, ce n'est pas de composer quelque chose qui ressemble à ce qui se passait il y a 30 ans ou 50 ans ou 80 ans, c'est de composer quelque chose qui ressemble à aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de cultures intéressantes aujourd'hui, et en particulier, il y a le jazz, la pop, le rock, le hip-hop, les musiques électroniques, etc., etc. Donc quand je mélange tout ce qu'on m'a appris, j'essaye de les mélanger avec aussi ces sons-là, ce qui me paraît logique.
Mmh. Tu nous as parlé d'Om Kulthum, par exemple. Le dernier album, Live Kulthum, c'est un concert qui s'était passé en 2015, c'est ça? Et là, c'est l'album qui vient. Est-ce que tu nous peux parler un petit peu de cet album?
Oui, effectivement, quand j'ai sorti l'album physique, quand j'ai sorti l'album Kulthum en 2015, on a fait toute une tournée qui s'est terminée à la Philharmonie de Paris. Mm-hmm. On a fait un live à la Philharmonie de Paris, on avait fait plus de 250 concerts dans le monde entier, donc c'était complètement fou. Mm-hmm. Et ce live, en fait, il est resté, on n'a pas vraiment sorti de... Il était là, il existait, mais on n'avait pas vraiment sorti comme il fallait. Et aujourd'hui, pour fêter les 10 ans de cet album Kulthum et pour fêter les 50 ans de la disparition d'Om Kulthum, j'ai souhaité refaire une tournée autour de Kulthum, de ce projet. Et on est en ce moment en plein dans cette tournée de Kulthum. Ce soir, je joue à Genève et on enchaîne, on fait des concerts un peu partout dans le monde. Mm-hmm. Et en même temps, voilà, j'ai eu envie de sortir l'album de manière à ce que tout le monde puisse découvrir ce live qu'on avait fait il y a quelques années. Et je trouve que c'est la meilleure manière de célébrer Om Kulthum, c'est de remettre en avant sa musique, surtout en ce moment.
Mmh. Ouais. Avant de finir, Brahim Maalouf, les projets à venir, si tu peux nous dire aux chers auditeurs, vos projets l'année 2026-27.
Alors, écoutez, il y a énormément de choses. Je prépare un très bel album avec mon épouse Hiba Tawaji.
Mmh. Qu'on la salue, elle était notre invitée la semaine dernière.
Oui, je savais. Et elle m'a dit qu'elle a passé un super moment avec vous.
Ouais, voilà. Merci beaucoup.
Et donc on prépare un album hommage à la chanson française. Mm-hmm. On reprend vraiment des grands classiques de chansons françaises, mais à notre façon. Et puis il y a plein d'autres choses qui vont arriver, mais surtout, le 10 avril 2027, je fête mes 20 ans de carrière au Paris La Défense Arena. Et donc, mm-hmm. ça va être un concert absolument gigantesque, vous pouvez l'imaginer, avec beaucoup, beaucoup d'invités.
Ah oui.
Avec plus de 1 500 personnes.
On est hâte, hein.
Voilà, ça va être un très, très grand concert. Vous imaginez les 20 albums que j'ai produits. Donc, il y a énormément de guests, d'invités, de... Voilà, ça va être un moment complètement fou où je reprendrai des morceaux comme Beyrouth, True Story, etc., qui sont des morceaux qui ont marqué les esprits. Et je vais le faire vraiment dans une version XXXXL. Ça va être complètement fou. Et ce concert, voilà, le 10 avril 2027, c'est vraiment un concert qui va marquer ma vie de musicien. Ça peut être le plus gros concert que j'ai fait dans ma vie. Et voilà, je suis impatient que le public nous rejoigne à ce concert. La billetterie a été ouverte d'ailleurs déjà. Il y a même des catégories qui sont déjà, je crois, presque complètes ou complètes. Donc voilà, ça se passe bien et je suis très, très, très heureux de savoir qu'on va vivre un très grand moment ce jour-là.
Mmh. Radio Orient, elle sera toujours avec vous pour partager aussi ce moment. Et on vous remercie infiniment, Brahim Maalouf, d'avoir partagé avec nous ton univers, ton énergie et ta vision profondément humaine de la musique. Je vous laisse la parole à la fin pour dire quelques mots aux éditeurs de Radio Orient.
Mais écoutez, moi je suis ravi en tout cas qu'on puisse effectivement parler et communiquer ensemble, parce que c'est vrai que la musique instrumentale n'est pas une musique accessible facilement. Il y a très peu de radios finalement, à part des radios jazz peut-être, qui passent de la musique instrumentale et qui sont sensibles à ça. Et donc, je remercie beaucoup Radio Orient de m'accompagner dans ces beaux projets. Et je suis impatient de vivre tous ces grands moments avec Radio Orient et les auditeurs de Radio Orient.
Merci beaucoup, Brahim Maalouf. On vous souhaite toujours le succès et le bonheur. Merci.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Merci.